Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre-gare, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Christelle a toujours aimé le partage, elle a toujours eu envie de donner. Donner son sang, donner ses plaquettes, donner son lait, faire en sorte que les autres se sentent mieux. Quand elle est devenue maman, elle a donc naturellement décidé de faire un don d'ovocytes à une femme qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Sa seule condition, connaître sa receveuse. Dans cet épisode, Christelle nous parle de sa découverte des forums sur Internet, des échanges virtuels qui ont permis de répondre à ses questionnements de future maman, de sa décision de faire un don d'ovocytes et de sa rencontre avec la femme qui en avait besoin. Bonne écoute! Bonjour Christelle, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Bonjour, bah écoute, merci de me recevoir et de me donner la parole.
Alors, tu es la maman de 3 enfants.
Oui, alors j'ai 3 filles grandes, donc j'ai mon aînée qui a 18 ans, une deuxième qui a 15 ans et ma petite dernière qui a 9 ans, Charlie.
Comment est arrivé le désir de maternité ?
Alors moi, j'étais pas du tout prête. J'ai 7 ans d'écart avec mon mari. Et lui, en revanche, il était prêt très tôt, mais donc j'ai fait patienter, donc d'abord avoir un boulot, une situation stable, un appart, et puis une fois qu'on avait tout ça, bah, je pouvais plus trop reculer. Donc à 26 ans, je me suis lancée et on a eu donc Johanna qui est arrivée quand j'avais 27 ans.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Alors, ça s'est bien passé. J'ai rien eu de particulier, des petits bobos, les nausées, voilà, mais rien de particulier. En revanche, je me suis sentie assez seule parce que j'étais la première de mes copines. Enfin, j'avais juste une amie qui était enceinte en même temps que moi, mais donc je me sentais un petit peu seule avec toutes mes questions. Ouais. Et donc, j'ai cherché, à l'époque, donc Internet venait de débarquer et j'ai trouvé un forum où il y avait une section réservée pour les mamans en devenir quoi, les qui attendaient des enfants, donc je me suis inscrite là-dessus. Mmh. Et j'ai trouvé un groupe de jeunes femmes, enfin de femmes qui étaient enceintes en même temps que moi, et donc j'ai commencé à passer pas mal de mon temps là-dessus pour poser mes questions, trouver des infos. Ça m'a pas mal aidée. Et puis quand Johanna est arrivée, en fait, j'ai fait une bonne grosse dépression postpartum qu'on a mis longtemps à diagnostiquer, en fait, puisque on me disait oui, bon, bah c'est le baby blues, ça va passer, et puis ça passait pas du tout. Mmh. Et en plus, mon mari me disait mais je comprends pas, tout va bien, t'as un bébé en super forme, t'as un boulot, un appart, un mari. Et puis plus il me disait ça, plus je culpabilisais d'aller mal, en fait. Et donc j'ai fini par aller voir un médecin qui m'a mis sous antidépresseur et j'ai pu revivre enfin.
C'était quoi tes symptômes pendant
J'étais écrasée par le poids de ce petit bébé. J'avais l'impression que j'avais le droit de vie et de mort sur elle et que si je faisais mal, j'allais ruiner sa vie en fait. Ça me terrorisait. Et j'avais l'impression que tout le monde s'en occupait mieux que moi. Donc elle pleurait beaucoup parce que j'étais hyper stressée. Donc je pense qu'elle ressentait tout ça. Et donc quand j'ai enfin pu prendre un traitement, ça m'a permis de prendre du recul. Puis ça allait mieux hyper vite. Donc j'ai vraiment regretté d'avoir attendu si longtemps. Parce que 6 mois, c'est quand même assez long. Et donc pendant cette période, j'étais à nouveau vachement à raconter mes états d'âme à ces copines qui me soutenaient sur Internet, là, sur ce forum, quoi. Et en fait, c'est à cette occasion-là que j'ai découvert qui avait plusieurs rubriques. Donc, tu avais la rubrique « Attendre bébé » pour les femmes enceintes, « Bébé est là » pour les jeunes mamans. Et il y avait aussi une rubrique qui était consacrée aux femmes qui avaient des soucis pour tomber enceinte. Donc ça, c'était un domaine que je connaissais absolument pas, parce que dans mon entourage, j'avais aucune copine qui avait eu du mal à tomber enceinte, dans ma famille. Enfin, vraiment, c'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Je savais pas que ça pouvait être problématique. Mmh. J'ai commencé par curiosité, en fait. J'ai commencé à lire les discussions de ces femmes qui racontaient leurs espoirs, leurs échecs, les fausses couches, les traitements, enfin, des choses assez lourdes, quoi. Et en fait...
Et t'échangeais avec elles, à ce moment-là ?
Non, je lisais, en fait, et j'étais hyper touchée par leurs histoires. Et puis, un jour, en fait, il y avait des passerelles entre les différentes sections, et de temps en temps, sur la section grossesse ou bébé est là, il y avait des nanas... qui n'arrivait pas à tomber enceinte, qui lançait des appels, qui écrivait des messages, j'ai 32 ans, je suis en ménopause précoce, j'ai plus d'ovocytes, le seul moyen pour moi de devenir maman, c'est un don d'ovocytes, est-ce que vous connaissez en France, pour pouvoir avoir un don sans attendre 3 ans, il faut amener une donneuse pour pouvoir faire un don croisé, enfin bref, elle faisait des appels aux donneuses en fait. Et l'idée, en fait, a germé dans ma tête, je pense, à ce moment-là, quoi.
Et oui, parce que c'était interdit, et ça l'est toujours, d'être donneuse en France.
Alors, c'est pas interdit, en revanche, les dons directs sont interdits. Le don anonyme est légal en France, mais pas le don direct. Et moi, en fait, ma grosse peur, c'était, si je fais un don anonyme, c'était que dans 20 ans, si le don marche et que si c'est un garçon, j'avais hyper peur que ma fille le rencontre et tombe amoureuse de lui. Enfin, moi, c'était vraiment le truc qui me posait souci. Donc, je m'étais dit, pour pallier à ça, il y a des dons directs, donc pas anonymes. Et ceux-là, il faut les faire en Belgique. Enfin, tout ça, je l'ai découvert sur le forum, en fait, hein, en posant la question. Et quand Johanna a eu 18 mois, donc ça allait mieux, j'avais arrêté les traitements, j'allais très bien. Et je me suis dit, et si je me lançais, quoi. Donc j'ai cherché, il y avait une association qui était assez présente sur le forum et qui mettait en relation des donneuses et des femmes qui attendaient des dons. Donc je leur ai écrit, je leur ai dit, je suis en région parisienne, j'ai tel âge. Je me suis un peu décrite physiquement, je suis petite, je suis brune, voilà. Histoire de trouver une receveuse qui avait à peu près, en très grand, quoi, les mêmes caractéristiques physiques que moi. Et elles m'ont proposé donc une femme qui était en ménopause précoce, qui avait déjà un petit garçon et qui avait divorcé du papa, qui était avec un nouveau compagnon et qui avait découvert donc 4 ans avant qu'elle pouvait plus faire d'enfant et qui cherchait une donneuse. Et donc elle m'a donné son mail et puis on a commencé à échanger.
Et à ce moment-là, comment toi t'as mûri tout ce projet niveau perso avec ton mari ? Comment
Donc sur ce forum, j'ai posé des questions à des filles qui avaient déjà fait des dons. Et elles m'ont expliqué un peu comment ça se passait. Donc j'en ai parlé à mon mari, qui lui m'a dit écoute. Je vois vraiment pas pourquoi tu te lances là-dedans, c'est une contrainte supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que cette lubie ? Enfin, il m'a dit je te laisse faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. En revanche, je veux pas du tout que ça me fasse des contraintes pour moi, quoi. Et en fait, il comprenait pas du tout pourquoi je voulais faire ça. Et en fait, moi, à cette époque-là, j'avais besoin de faire quelque chose. Alors déjà, je trouvais ça très injuste que moi je puisse avoir des enfants comme ça, enfin j'étais d'être fertile, et que d'autres femmes elles ont une ménopause précoce ou d'autres soucis, enfin je trouvais que c'était vraiment une énorme injustice. Et puis je me trouvais très gâtée en fait, parce que j'avais eu ma fille facilement, elle va très bien dans ma famille, tout le monde va bien, personne n'a de maladie, y a pas de décès, pas d'histoire tragique, enfin je me trouvais très gâtée et je me disais faut redistribuer un peu. Moi, je donne mon sang, je donne mes plaquettes. Quand j'ai allaité ma fille, je donnais mon lait. Enfin, ça, pour moi, c'est naturel, quoi. Il faut partager, quoi. Mmh. Et surtout, dans ma tête, c'était hyper clair qu'un don d'ovocytes, c'est le don d'une moitié de patrimoine génétique, mais c'est tout, quoi. C'est des cellules, ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas du tout un... C'est vraiment juste, c'est un peu... Pour moi, c'est l'équivalent d'un don de sang, quoi. C'est pour aider une autre femme à pouvoir, elle, fabriquer... Elle va fabriquer un bébé. Moi, je donne juste des cellules, quoi. Mmh. Donc, pour moi, c'était hyper clair dans ma tête. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose qui me rende fière de moi, en fait. Parce que jusqu'à présent, ben, je me trouvais un peu nulle comme maman. Dans mon boulot... J'aimais pas ce que je faisais, je m'ennuyais profondément, donc je m'étais dit, bah tiens, ça, au moins, je pourrais dire, bah ça, je suis hyper fière d'avoir fait ça. Et j'avais pas du tout imaginé que ça puisse ne pas marcher, donc heureusement, parce que je pense que ça aurait été désastreux. Et donc voilà, donc en septembre 2002, donc ma fille, ouais, elle devait avoir 18 mois, donc je prends contact avec cette jeune femme, puis on a beaucoup échangé par mail. Et on a décidé donc de se rencontrer pour être sûr que bah voilà, ça allait fonctionner. Donc il se trouve qu'elle habitait pas loin de chez moi. On s'est rencontrés à Boulogne, on s'est pris un verre, elle, moi et son mari, et son fils d'ailleurs, son petit garçon qui avait 4-5 ans à l'époque. Et ce qui est rigolo, c'est pour moi, je l'avais jamais vue, elle non plus. Et en fait, quand on s'est vus, c'était drôle parce qu'on, ça a connecté tout de suite, quoi. Déjà, on se ressemble, effectivement, on fait la même taille, on est brunes aux yeux bleus. Et le détail rigolo, c'est qu'on avait, on avait les mêmes baskets, je me rappelle, des New Balance à l'époque. Et puis la même montre. Alors, c'est super trivial comme détail, mais moi, ça m'a rassurée de me dire, ok, enfin. On vient un peu, on parle le même langage, quoi. On est du même milieu. Enfin, non pas que c'était un obstacle, mais je me suis dit, voilà, ça fait ça en moins à gérer, quoi.
C'était quoi justement tes inquiétudes, si t'en avais ?
Ben, j'avais peur de qu'on soit hyper différentes, quoi, qu'on n'ait pas les mêmes valeurs, que voilà, c'est ça qui me faisait peur. Mais bon, après.
Physiquement, t'avais pas d'inquiétude sur le. Le déroulé du don d'ovocytes.
Non, parce que je m'étais renseignée. Moi, j'ai jamais eu de douleur de règles, j'ai jamais eu de contraction pendant ma grossesse. Enfin, j'ai jamais eu de bobos. Je sais que j'ai des copines qui savent précisément quand elles ovulent, de quel côté. Enfin, moi, jamais de la vie, j'ai ressenti ce genre de choses. Et donc, je m'étais dit, il n'y a pas de raison que... Non, j'avais pas de... La seule chose qui me faisait peur, c'était l'acte en lui-même, la ponction, en fait. Mmh. Et donc, c'est pour ça que ce groupe sur Internet, c'était hyper pratique, parce qu'en fait, on pouvait poser des questions à des filles qui étaient déjà passées par là, qui restaient assez discrètes sur, justement, la ponction, un peu comme quand on n'a jamais accouché et qu'on demande à une copine, mais comment ça se passe ? Mais t'inquiète pas, t'oublieras tout une fois que t'auras bébé, puis qui disent pas exactement tout ce qui se passe. Bah là, c'était un peu pareil avec la ponction, c'était, mais t'inquiète, c'est pas agréable, mais ça dure 2 secondes, t'inquiète pas. Et moi, moi j'avais peur de ça. Après, évidemment, comme tout... Parce qu'en fait, on suit le même traitement que si on faisait une simulation pour faire une FIV. Mmh. Donc, on a des injections d'hormones et tous les jours pendant 15 jours. Et après, on déclenche l'ovulation. Enfin, donc, il y a quand même des risques puisqu'on s'injecte des hormones, quoi. C'est pas anodin, mais le risque, c'était de faire une hyperstimulation. Bah, je me suis dit, je prends ce risque. En revanche, pour la ponction, on avait le choix entre une anesthésie locale et une anesthésie générale. Et là, j'ai décidé de ne pas prendre le risque de l'anesthésie générale. Je me suis dit, pour moi, j'avais peur de ne pas me réveiller, quoi. Donc je me suis dit, on fait en local, voilà. Donc c'est pour ça que la ponction me terrifiait, parce qu'on fait en local, certes, mais donc où est-ce qu'on anesthésie, quoi ? Est-ce que c'est dans le ventre, dans la fesse ? Enfin, j'avais pas trop d'idées, et en fait, il y a quand même une nana qui a fini par répondre à mes incessantes questions et qui m'a dit « Ok, on a des anesthésies en local, donc en fait, on te pique dans l'utérus, quoi. » Bon, donc au moins, je préférais être prévenue. Elle m'a dit « on te donne des décontractants, il faut surtout pas bouger. » Donc voilà, moi, j'étais contente de le savoir, parce que voilà, je voulais être sûre, je voulais pas être prise par surprise, quoi.
Et ça, l'association, elle répondait pas à ce genre de questions ?
Si, c'était indifféremment des anciennes donneuses ou des personnes de l'association qui connaissaient le process. Non, on avait toutes les réponses qu'on voulait. Et donc j'ai rencontré ma receveuse, ça s'est donc hyper bien passé, on a décidé de commencer le processus ensemble. Donc il fallait trouver donc une clinique en Belgique, puisque en France le don direct est interdit. Donc elle s'est chargée de tout l'administratif, trouver les médecins, etc. Donc on a eu un premier rendez-vous en Belgique où je suis allée seule avec elle et son mari, où ils nous ont expliqué comment ça se passait, qu'il fallait voir, il fallait avoir l'accord d'un psychologue qui était un partenaire de leur clinique en France. Donc on a vu chacun séparément cette psy. Donc moi de mon côté, eux de leur côté, et puis elle a trouvé que j'étais hyper claire dans ma tête, que j'étais apte, donc j'étais bien contente. Après, il a fallu trouver des médecins relais en France qui prescrivaient les examens qui n'étaient pas remboursés par la Sécu, bien sûr, et il fallait aussi qu'ils prescrivaient les médicaments qui, eux, sont hors de prix. Et donc en fait, il y a eu tout une chaîne de solidarité qui s'est sur ce forum où les filles qui faisaient des FIV normales et qui avaient des médicaments en trop parce que pour je ne sais quelle raison elles n'avaient pas utilisé tout leur stock, elles mutualisaient ce stock. Et donc il y avait quelqu'un qui se chargeait de récupérer dans tout Paris les hormones, les médicaments, parce que ça coûte très très cher, et qui redistribuait pour alléger un peu le coût pour les receveurs. Et donc on a démarré le processus en fin novembre, à la fin de l'hiver. Et donc c'était rigolo parce que sur internet, sur ce forum, on avait créé un groupe de filles qui faisions un don à peu près en même temps. Donc on se coachait pour les piqûres. Parce que moi j'étais dans la région parisienne, donc c'était simple pour moi, c'était facile de trouver une infirmière un peu n'importe où à côté de mon bureau, à côté de chez moi, mais il y avait des filles qui faisaient ça à la campagne ou en province, et là c'était plus compliqué, donc elles devaient se piquer toutes seules. Et donc en général c'était leur mari, enfin leur compagnon qui le faisait, donc on se donnait des trucs, faut s'entraîner, faut qu'ils piquent dans un pamplemousse, enfin c'était assez marrant quoi, on se coachait. Et puis après il y a aussi eu des filles qui ont rencontré leur receveuse, et puis en fait ça n'a pas fité quoi, ça, parfois ça marchait pas parce que je ne sais quelle raison, donc c'était assez dur pour les deux côtés en fait, c'est comme ça, il vaut mieux pas, c'est mieux de s'en rendre compte avant, bien sûr. Après il y a eu des filles où le don ne fonctionnait pas, la stimulation n'avait rien donné, ou alors qui découvraient à cette occasion là donc il faut quand même faire des examens médicaux. Et donc il y a une copine qui a découvert qu'elle était atteinte d'une maladie génétique pas grave mais quand même quoi, et donc ses receveurs ont préféré ne pas poursuivre, ce qui est complètement compréhensible, mais ça a été hyper dur à encaisser. Donc il y avait vachement de soutien, on se soutenait beaucoup, je m'en rappelle de cette époque vraiment avec beaucoup de tendresse quoi. C'était hyper chouette comme expérience, même si depuis on se voit plus, on s'est perdu de vue, ça fait 16 ans, mais je m'en rappelle avec ça me fait sourire quoi de me rappeler de cette époque. Donc j'ai démarré les traitements, donc je bossais, le soir j'allais me faire piquer tous les jours, j'en ai pas parlé au bureau, donc parfois il fallait que je m'absente d'une réunion tard le soir parce qu'il fallait se piquer entre telle heure et telle heure. Donc tout ça a duré une dizaine de jours, j'ai eu aucun effet secondaire parce qu'il y a des filles qui prennent du poids, il y en a qui ont hyper mal, enfin moi vraiment rien quoi, enfin à part le côté désagréable de la piqûre, mais enfin c'était pas non plus insurmontable. Et puis fin décembre, j'étais suivie donc on avait trouvé un premier gynéco qui avait accepté de faire les échos, parce qu'il faut des échographies de contrôle pour vérifier que les follicules grossissent comme il faut, etc., que je répondais bien à la stimulation, dans un grand hôpital clinique, une clinique privée à côté de Paris. Et en fait ça s'est hyper mal passé, il me recevait déjà, il me faisait attendre, je devais attendre 3 heures, quoi. Enfin, moi, c'était sur mes jours de... Enfin, je prenais un demi-RTT, en fait, c'était la journée entière. Il me recevait entre deux patients, je me rappelle, il m'avait fait une échographie vaginale. Il avait une autre patiente à son bureau. Moi, il avait laissé la porte ouverte, je voyais ses pieds. Enfin, bon, c'était vraiment pas cool.
Pourquoi
J'ai pas compris en fait. Je pense qu'il était. Je sais pas pourquoi il a accepté de nous suivre, puisque clairement il était contre. Enfin, ça lui plaisait pas. Il m'avait même dit vous feriez mieux de les garder pour vous, parce que votre réserve ovarienne est déjà pas terrible. Moi, ça m'avait un peu anéanti, quoi. Enfin.
Tu t'étais posé la question du coup à ce moment-là, quand il t'a dit que toi ta réserve était.
Non, parce que de toute façon je voulais pas tomber enceinte là tout de suite, donc bon, non, je savais que s'il me prenait mes ovocytes là, ça changeait rien pour ceux de. Si j'avais voulu faire un deuxième enfant. Fin. Mais du coup on a changé de gynéco parce que c'était vraiment. Enfin, moi j'étais pas à l'aise. Et puis les infirmières, ça c'était assez sympa. En revanche, je changeais d'infirmière assez souvent, et en fonction de là où j'étais le jour où il fallait faire les prises de sang. Et elle, en revanche, j'ai toujours eu un retour hyper positif, quoi. Elle trouvait ça hyper drôle comme histoire. Enfin, c'était vachement chouette, quoi, comme expérience. Et puis, au bout de 10 jours, comme je répondais bien au traitement, on a fait la dernière piqûre qui déclenche l'ovulation. Et 48 heures après, il faut partir en Belgique pour faire la ponction, la fameuse ponction. Et pour que la receveuse soit inséminée avec donc cet ovocyte et le sperme de son conjoint. Et donc, on est parti en Belgique. Et moi, j'avais hyper peur d'être toute seule, en fait. Donc, j'avais demandé à mon mari de m'accompagner. Et puis, du coup, on a embarqué ma fille. Et puis... Et puis on savait pas quoi faire de notre chien, on est parti avec notre chien. Donc voilà, tout le monde dans le Thalys. Et on est arrivé, donc c'était dans la banlieue de Bruxelles. Donc mon mari est resté avec ma fille et notre chien à l'hôtel. Et puis moi je suis partie à la clinique avec ma receveuse et son conjoint. Donc la fameuse ponction est arrivée. Donc bon, c'était pas une partie de plaisir, mais comme je savais exactement à quoi m'attendre, j'ai géré, quoi. Voilà, j'ai serré les dents, c'était pas très agréable, mais voilà, c'était fait. Et en revanche, la mauvaise surprise, c'est que ils ont pu prélever que 4 ovocytes, ce qui est vraiment rien, quoi. Normalement, on en prélève une quinzaine, quoi, pour espérer en récupérer un ou deux qui puissent fonctionner. Donc là, c'était la grosse douche froide. Mais bon, on a fait quand même l'insémination, et puis on a attendu en croisant les doigts très fort, on a laissé passer Noël, et puis le 2 janvier, ma receveuse a fait un test et c'était positif. Donc ça c'était. Pour moi j'avais accompli mon boulot, quoi. Donc j'avais atteint mon objectif, j'étais hyper heureuse, quoi. Enfin, je crois que j'étais encore plus contente qu'elle. Et puis voilà, on avait décidé de. Moi, on s'entendait très bien, mais pour moi, j'avais fait ma part du boulot, et puis j'avais pas dans l'idée de devenir une proche de cette. J'avais fait mon boulot, après je m'effaçais. Donc j'ai quand même pris de ses nouvelles
pendant sa
grossesse, mais voilà, comme ça, juste. En fait, elle m'envoyait un petit message à la première écho, deuxième écho, troisième écho, et puis voilà.
Pour te dire le sexe.
Oui. Oui, donc c'était une fille, donc c'était bien la peine d'avoir angoissé comme ça. Donc c'était une petite fille, elle était hyper contente puisqu'elle avait un petit garçon, enfin de toute façon fille, garçon, voilà. Mais c'était la cerise sur le gâteau. Et puis elle a accouché en août, donc grand bonheur. Et puis voilà, on s'est perdu de vue, quoi. Voilà, je l'ai laissée...
T'as pas eu de photo du bébé à ce moment-là?
Si, elle a dû m'envoyer une photo, mais bon, nouveau-né... peut pas, enfin voilà, ils se ressemblent un peu tous.
Ouais,
ils
sont tous. Ça t'a fait une émotion particulière?
Non, ça m'a. Non, comme si. Non, vraiment, pas d'émotion.
T'es restée complètement détachée.
Ah oui, complètement détachée. Comme si c'était le bébé d'une copine. J'étais contente pour elle, quoi, mais vraiment, non, rien de. Et puis. Mon mari, qui au début il avait pas trop envie d'être mêlé au processus, finalement il s'était piqué au jeu, puis il était hyper content aussi, il était hyper fier de moi, donc ça c'était chouette. J'en avais parlé aussi à ma famille, j'en ai parlé à mes parents et à ma sœur.
Et alors,
Ma sœur, elle a trouvé ça top, comme elle était hyper hyper contente que je fasse ça, que ça ait marché. Mes parents, en revanche, ma mère, ça lui a clairement posé un problème. Elle m'a dit, de toute façon, évidemment, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai quand même l'impression d'avoir un petit enfant dans la nature que je connais pas, et ça me met mal à l'aise. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Et on n'en a jamais reparlé. Mon père non plus, il m'a ni dit que c'était bien ni mal, il m'a dit ok, voilà. Et en revanche, quand il lit des articles sur la PMA, les dons d'ovocytes, il m'envoie les articles, donc je sais que il, enfin,
il est fier.
Je pense que quelque part il est quand même fier et puis il est pour, enfin, il s'intéresse au sujet quoi. Du coup, je trouve ça sympa.
Et donc toi, quelques temps plus tard, tu as décidé de faire un deuxième enfant ?
Bah oui, en fait, quand ma fille a eu un peu plus de 2 ans, on s'est dit qu'on allait faire un petit frère ou une petite sœur, et puis ça a marché assez rapidement. 6 mois après, j'étais enceinte. Donc en fait, ma deuxième fille a même pas 1 an d'écart avec la petite fille qui est née du don. Et puis, donc ça c'était en 2004. Et ensuite, donc je l'avais perdu de vue, on n'avait plus de nouvelles. Quand Facebook a démarré, ça devait être en 2005, enfin je sais plus, elle m'a recontactée. Mais plus dans l'optique, enfin je pense que c'était l'euphorie des débuts où tout le monde avait envie de retrouver ses amis d'enfance, de ses anciens collègues. Et puis elle, du coup, elle s'est dit tiens. Donc on s'est reconnectés. Et du coup, j'ai vu des photos de la petite qui devait avoir 7-8 ans à cette époque. Et là, ça m'a fait rigoler de chercher les ressemblances. Donc, c'est vrai qu'elle a les mêmes yeux, en fait, que mes filles. Donc, c'était rigolo. Mais bon, sinon, elle ressemble beaucoup à son papa. Mais pareil, ça m'a pas fait d'émotion particulière. Juste la curiosité une petite curiosité de 2 minutes. Et puis, c'est tout, quoi. Puis après, de voir qu'elle évoluait bien. Enfin, j'étais contente. Comme la fille d'une copine, quoi. Et puis, elle avait très envie qu'on se voit avec nos enfants. Et pareil, moi, je préférais rester... Ne pas en faire une proche, quoi. Je préférais rester en retrait. Donc, on s'est jamais vus, en fait, depuis. Mais depuis, donc, je vois ça... Quand elle met une photo, ça apparaît dans mon feed. Et donc, je la vois grandir. Je l'ai vue évoluer. Voilà, ça me fait plaisir à chaque fois de voir une photo. Elle a eu 16 ans. Elle a eu 16 ans cet été. Donc, en fait, quand ma seconde fille a commencé sa crise de préadolescence, c'était hyper conflictuel entre nous. C'était vraiment un mauvais moment. Là, j'en parle librement parce que c'est passé et que maintenant, ça va très bien entre nous. Mais à cette époque-là, vraiment, c'était très très dur. Et à cette époque-là, quand je voyais des photos apparaître de la petite fille née du don qui a sensiblement le même âge et sur Facebook et qu'elle avait l'air mais hyper gentille, hyper complice avec sa mère, il m'est arrivé une ou deux fois de penser mais punaise, j'ai filé les bons œufs et j'ai gardé les mauvais quoi. Bon, ça m'a traversé l'esprit une demi-seconde. Et bon, je me doute que derrière les photos Facebook, elle aussi, elle a dû faire sa petite crise comme toutes les jeunes filles de son âge.
Est-ce que tu en as parlé, toi, à tes filles ? Parce que alors, du coup, maintenant, enfin, entre-temps, tu as une autre fille. Donc, tu as 3 filles en tout.
Voilà, donc maintenant, j'ai 3 filles en tout. Et en fait, grâce à Facebook, en fait, en voyant les jours où je voyais une photo, un jour, je me suis dit, tiens, je vais quand même leur expliquer ce que j'ai fait.
Elles avaient quel âge ?
Elles avaient, peut-être la grande avait peut-être une jeune ado, 9, et je sais plus, ça devait être ça. Et donc, je leur ai raconté... cette histoire, donc elles ont un peu halluciné parce qu'elles savaient pas du tout que c'était possible. Et elles ont voulu voir les photos, donc je leur ai montré, pareil, ça les a amusées 2 secondes, et puis elles sont passées à autre chose. Pour elles, il n'y a pas de demi-sœur biologique, il n'en est absolument pas question, quoi. Enfin, c'est pas du tout leur trip. Je sais que elles sont au courant, mais c'est tout, quoi.
Et alors, si cette jeune fille souhaitait te rencontrer dans le futur, comment tu...
Alors ça, c'est une question qu'on avait évoquée lors de l'entretien psy au tout début du processus. Mmh. Et en plus, à l'époque, je me rappelle, j'étais fan d'une série, Ally McBeal, et dans cette série, elle avait fait un don. Et 18 ans après, il y avait une jeune fille qui sonnait à sa porte pour lui dire « Bonjour maman ». Donc ça... J'avais évoqué ça avec la psy et puis en fait elle m'a aidé à trouver un peu les mots pour dire écoute, voilà ce que j'ai aidé à faire, mais ta maman c'est celle qui a décidé de te concevoir en fait. Moi j'ai décidé de donner des cellules, mais c'est tout en fait, il n'y a pas de lien. Enfin, moi, je suis complètement prête à... Si elle veut me rencontrer, moi, ça me pose mais aucun souci, quoi. Parce que je suis complètement détachée. Enfin, j'ai aucun malaise. En revanche, je ne sais pas du tout si ses parents ont décidé de lui révéler l'histoire de sa naissance. Donc je ne sais pas du tout, et c'est un sujet que j'ai jamais abordé avec elle parce que ça me regarde pas en fait. Donc je ne sais pas si elle est au courant, mais si jamais elle est au courant, moi ça me pose aucun souci qu'elle vienne me poser des questions si elle en ressent le besoin. Parce que en ce moment je lis pas mal de témoignages de personnes qui sont issues de dons. En général c'est des personnes qui sont issues de dons de sperme anonymes et qui sont mal dans leur peau et qui ont absolument besoin d'avoir des réponses à des questions. Donc c'est, ils ont leurs parents, il n'y a pas de souci, ils cherchent pas leur père. En revanche, ils ont apparemment des questions sur leurs origines et ça les... Ils ont un mal-être lié à ça, et donc il y a pas mal de jeunes adultes maintenant qui utilisent les tests ADN qui sont en vente sur internet pour essayer de retrouver leur donneur, et c'est quelque chose apparemment qui leur pose souci. Et c'est vrai que c'est une question que je m'étais absolument pas posée à l'époque, enfin il y a 16 ans, on n'avait pas du tout évoqué le fait que peut-être ces enfants-là, ça allait leur poser problème de ne pas avoir... accès à leurs origines. Donc, moi, ça me pose pas de soucis, quoi. C'est pour ça que j'ai fait un don direct aussi. Je savais que on pourrait me retrouver, quoi. Donc, moi, ça me pose pas de soucis.
Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme qui souhaiterait faire un don d'ovocytes ?
De se rapprocher d'une association où elle aura toutes les réponses à ses questions, parce qu'il y a des questions un peu qu'on n'ose peut-être pas poser. Enfin, maintenant, je sais que l'association par laquelle on est passé nous il y a 16 ans, elle existe encore, et elle, à l'époque c'était vraiment artisanal. Enfin, elles étaient peut-être une ou deux, on n'était pas beaucoup, et là j'ai vu que c'était devenu un gros mastodonte, et en fait ils sont hyper équipés, c'est une vraie structure, donc c'est de se rapprocher d'une association pour se faire accompagner, quoi.
Et si c'était à refaire ?
Je refais complètement. Enfin, moi c'était une super expérience. Après j'ai eu la chance que au niveau physique, santé, tout se passe vraiment comme sur des roulettes. Enfin, Non, moi je re-signe tout de suite avec la même receveuse, parce que c'est aussi le fait qu'on se soit si bien entendu, qu'on partage les mêmes valeurs, c'est essentiel. On a vraiment eu de la chance, je pense, de tomber l'une sur l'autre.
Et quel regard tu portes sur ce geste que tu as fait pour quelqu'un qui est quand même très fort, t'as permis à une femme de donner la vie ?
Pour moi, en fait, c'est plus qu'un don. En fait, c'est moi, ça m'a apporté beaucoup aussi. Donc, il y a pas de, c'est pas vraiment un don. Enfin, pour moi, en tout cas, elle m'est redevable de rien du tout, parce que moi, elle m'a aussi apporté beaucoup.
Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Ça m'a apporté de pouvoir de partager, en fait, le partage. Et puis, pour moi, c'est naturel, en fait, de et ça a rien d'exceptionnel. Enfin, tout le monde me dit oh là là, mais moi il y a plein de choses que je suis incapable de faire. Par exemple, je suis incapable, je sais pas moi, de faire un massage cardiaque à quelqu'un dans la rue, ou de, chacun fait en fonction de ses compétences. Moi, pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai toujours du mal quand on me dit que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que non, pour moi ça m'a pas, j'avais pas de contraintes particulières, j'ai pas souffert, ça m'a pris 10 jours dans ma vie où j'ai perdu une heure de mon temps, 10 jours dans ma vie, voilà, c'est tout, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
Qu'est-ce que ça a changé chez moi? En fait, pour moi, être maman, c'est un plus, mais je me considère pas comme maman avant tout, quoi. Je suis moi, et puis il se trouve que j'ai 3 enfants, mais donc ça change qu'on a des responsabilités en plus, mais j'adore les élever, les voir grandir, mais je me considère pas maman avant tout, quoi. Il y a une phrase que j'aime bien d'une auteure, Charlotte Perkins, qui dit même une huître peut être mère, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Une maman parisienne, mais c'est une maman pieuvre avec un agenda bien chargé entre les activités, le temps de transport à prendre en compte, et puis c'est avoir une richesse culturelle immense, des musées, des expos dans tous les sens, de la verdure aussi. J'adore vivre à Paris avec, avec mes filles.
Est-ce que tu as un endroit kids-friendly préféré ?
Un endroit kids-friendly préféré, bah, elles sont grandes les miennes, donc là dernièrement on a été parce que c'est un petit peu compliqué de faire plaisir à tout le monde quand j'ai l'aînée qui a 18 et la petite qui a 9 ans, elles n'ont pas toujours les mêmes centres d'intérêt et donc nous on aime bien aller à l'Aqua Boulevard.
Quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille?
Pour moi, des week-ends entre copines, sans enfants. Voilà, et je suis en pleine reconversion, donc là je suis en phase de réflexion pour la suite de ma carrière. Et en famille, là, comme mes deux grandes, elles approchent du Pâques, je crois que c'est quelque chose qui va beaucoup nous occuper. Donc j'aimerais bien, pareil, nous prévoir des week-ends pour décompresser à 5 dans des villes européennes. Voilà.
Merci beaucoup, Christelle.
Merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Christelle, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 37 sur Instagram grâce au hashtag de Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.